La Tour de Garde, édition d'études, février 2022. Article d'étude numéro 6. Cet article sera étudié la semaine du 4 au 10 avril 2022. As-tu confiance dans les manières d'agir de Jéhovah? Voici le verset thème de l'étude. Le rocher, parfait est son action, car toutes ses manières d'agir sont justes. Dieu de fidélité qui n'est jamais injuste. Il est juste et droit. Deutéronome 32, verset 4. Cantique 3. Ma force, mon espérance, mon assurance. Aperçu, cet article va nous aider à comprendre la nécessité de renforcer notre confiance en Jéhovah et en ses représentants terrestres. Nous verrons également comment cela nous est bénéfique aujourd'hui et nous prépare aux difficultés que nous rencontrerons dans l'avenir. Paragraphes 1 et 2. Question A. Pourquoi beaucoup ont-ils du mal à faire confiance aux personnes détenant une autorité? Question B. Qu'allons-nous examiner dans cet article? De nos jours, beaucoup de gens ont du mal à faire confiance aux personnes qui détiennent une autorité. Ils constatent que les pouvoirs judiciaires et politiques ont tendance à favoriser les riches et les puissants et à ne pas rendre justice aux pauvres. La Bible ne dit-elle pas « L'homme domine l'homme pour son malheur » Ecclésiaste 8, verset 9. De plus, beaucoup perdent leur confiance en Dieu parce que le comportement de certains chefs religieux laisse énormément à désirer. C'est pourquoi, lorsqu'une personne accepte d'étudier la Bible avec nous, nous avons la difficile mission de lui apprendre à faire confiance à Jéhovah et à ses représentants terrestres. Bien sûr, les étudiants de la Bible ne sont pas les seuls à devoir apprendre à faire confiance à Jéhovah et à son organisation. Même si nous sommes dans la vérité depuis de nombreuses années, nous devons entretenir notre conviction que les manières d'agir de Jéhovah sont toujours les meilleures. En effet, des situations pourraient mettre notre confiance à l'épreuve sous ce rapport. Dans cet article, nous allons examiner trois situations dans lesquelles notre foi pourrait être mise à l'épreuve. Premièrement, quand nous lisons certains récits bibliques. Deuxièmement, quand nous recevons des directives de l'organisation de Jéhovah. Et troisièmement, quand, dans l'avenir, nous traverserons des difficultés. Aie confiance en Jéhovah quand tu lis la Bible. Paragraphe 3, question. Comment certains récits bibliques pourraient-ils mettre à l'épreuve notre confiance en Jéhovah? Quand nous lisons la Bible, nous pourrions nous demander pourquoi Jéhovah a agi de telle ou telle manière avec certains et pourquoi il a pris telle ou telle décision. Par exemple, dans le livre des Nombres, nous lisons que Jéhovah a condamné à mort un Israélite pour avoir ramassé du bois le jour du sabbat. Or, dans le second livre de Samuel, nous apprenons que des siècles plus tard, il a pardonné au roi David un adultère et un meurtre. Nous pourrions nous demander, pourquoi Jéhovah a-t-il pardonné à David un adultère et un meurtre, mais a-t-il condamné à mort l'autre homme pour un péché apparemment moins grave? Pour répondre à cette question, considérons trois facteurs qu'il est bien de garder à l'esprit quand nous lisons la Bible. Paragraphe 4, question. Comment Genèse 18, versets 20 et 21 et Deutéronome 10, verset 17 renforcent-ils notre confiance dans les jugements de Jéhovah? La Bible ne fournit pas toujours tous les détails d'un récit. Par exemple, nous savons que David s'est sincèrement repenti de ses actes. Mais quel genre de personne était l'homme qui a transgressé la loi sur le sabbat? A-t-il regretté son acte? Avait-il précédemment désobéi à des lois de Jéhovah? Avait-il reçu des avertissements auxquels il n'avait pas prêté attention, voire qu'il avait rejeté? La Bible ne le dit pas. Toutefois, nous pouvons être certains de ceci. Jéhovah n'est jamais injuste. Deutéronome 32, verset 4. Il fonde ses décisions sur la totalité des faits pas sur des rumeurs, des préjugés ou toute autre chose qui bien souvent fausse le jugement humain. Nous lisons en Genèse 18, versets 20 et 21. Alors Jéhovah dit, « Les cris de plainte contre Sodome et Gomorre sont forts, et leur péché est très lourd. Je vais descendre voir s'ils agissent aussi mal que le laissent entendre les cris de plainte qui me sont parvenus. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Nous lisons en Deutéronome 10, verset 17, « Car Jéhovah ton Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne se montre partial envers personne et qui n'accepte pas de pot de vin. » Plus nous en apprenons sur Jéhovah et sur ses normes, plus nous renforçons notre confiance dans ses jugements. Même si un récit biblique suscite des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre pour l'instant, nous en savons largement assez sur notre Dieu pour être convaincus qu'il est juste dans tous ses actes. Psaume 145, verset 17. Paragraphe 5, question. Quel effet l'imperfection a-t-elle sur notre sens de la justice? Notre sens de la justice est déformé par l'imperfection. Dieu nous a fait à son image. Nous aspirons donc, comme lui, à voir les gens traités avec justice. Cependant, étant imparfaits, nous risquons de mal évaluer une situation, même si nous pensons disposer de tous les faits. Souviens-toi, par exemple, à quel point Jonas était contrarié que Jéhovah décide de faire preuve de miséricorde envers les Ninivites. Pourtant, qu'a permis la miséricorde de Dieu? Que plus de 120 000 Ninivites aient la vie sauve. Donc, tout bien considéré, c'est le point de vue de Jonas qui méritait d'être corrigé, pas celui de Jéhovah. Voici ce que dit l'encadré intitulé « L'imperfection fausse notre conception de la justice ». En raison de l'imperfection, nous portons parfois sur les choses un regard soit plus sévère, soit plus indulgent que Jéhovah. Cela pourrait nous amener à douter de certaines de ses manières d'agir. Notre condition est comparable à celle d'un individu dont les lunettes sont embuées. Il a beau faire tout son possible pour y voir clair, la buée fausse sa vision. De même, si nous avons du mal à comprendre certaines manières d'agir de Jéhovah, c'est peut-être que l'imperfection fausse notre conception de la justice. C'est notre vision qui n'est pas correcte, pas celle de Jéhovah. Paragraphe 6, question. Pourquoi Jéhovah n'est-il pas dans l'obligation de nous expliquer ses décisions? Jéhovah ne doit pas aux humains des explications au sujet de ses décisions. Il est vrai que Jéhovah a permis à des fidèles du passé d'exprimer leurs ressentis au sujet de décisions qu'il avait prises ou allait prendre. Parfois, il a même expliqué ses décisions. Néanmoins, Jéhovah n'est pas dans l'obligation de se justifier, c'est notre Créateur. Il n'a donc pas besoin de notre approbation, que ce soit avant d'agir ou après avoir agi. Fais confiance à Jéhovah quand tu reçois une instruction. Paragraphe 7, question. Qu'est-ce qui pourrait nous être difficile et pourquoi? Nous sommes sans doute pleinement convaincus que Jéhovah agit toujours avec justice. Par contre, il peut nous être difficile de faire confiance à ses représentants humains. Nous nous demandons peut-être si ceux qui détiennent une certaine autorité dans son organisation agissent en accord avec sa direction, ou bien de leur propre chef. Des personnages des temps bibliques ont-ils eu ce genre de doute? Réfléchissons aux exemples cités dans le paragraphe 3. Un parent de l'homme qui avait violé la loi sur le sabbat aurait pu se demander si Moïse avait vraiment consulté Jéhovah avant que la condamnation à mort soit prononcée. Et un ami d'Uri, le Hittite, dont la femme avait commis un adultère avec David, aurait pu se dire que David s'était servi de sa position de roi pour échapper à une punition amplement méritée. À vrai dire, nous ne pouvons pas affirmer que nous avons confiance en Jéhovah si nous n'avons pas confiance en ses représentants terrestres, en qui il place sa confiance. Paragraphe 8, question. Quelle similitude y a-t-il entre le fait rapporté en Actes 16, versets 4 et 5 et la manière dont l'Assemblée chrétienne fonctionne aujourd'hui? Aujourd'hui, Jéhovah dirige la partie terrestre de son organisation par l'intermédiaire de l'esclave fidèle et avisé. Matthieu 24, verset 45. Comme le collège central du 1er siècle, cet esclave veille sur la famille mondiale des adorateurs de Dieu et donne des instructions aux anciens des assemblées. Nous lisons en Actes 16, versets 4 et 5. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères pour qu'ils y obéissent les décisions prises par les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem. Ainsi, les assemblées continuaient à s'affermir dans la foi et à grossir de jour en jour. À leur tour, les anciens veillent à ce que ces instructions soient suivies dans les assemblées. Faire confiance aux manières d'agir de Jéhovah, c'est suivre les instructions que nous recevons de son organisation et des anciens. Paragraphe 9, question. Dans quel cas pourrions-nous avoir du mal à soutenir une décision des anciens et pourquoi? Nous pourrions parfois avoir du mal à soutenir des décisions prises par les anciens. Ces dernières années, par exemple, beaucoup de circonscriptions et d'assemblées locales ont été restructurées. Dans l'objectif d'optimiser l'utilisation de nos salles du royaume, les anciens ont parfois demandé à des proclamateurs d'aller soutenir une autre assemblée. Changer d'assemblée peut signifier être séparé d'amis ou de membres de sa famille. Les anciens reçoivent-ils une directive de Jéhovah qui leur dit dans quelle assemblée affecter chaque proclamateur? Non. Par conséquent, nous pourrions avoir du mal à suivre leurs instructions. Malgré tout, Jéhovah confie aux anciens la responsabilité de prendre ce genre de décision parce qu'il leur fait confiance. Nous devons donc, nous aussi, leur faire confiance. La note ajoute : il peut arriver qu'une situation particulière oblige un chrétien ou une famille à rester dans son assemblée. Voir le ministère du Royaume de novembre 2002, réponse à vos questions. Paragraphe 10, question. En accord avec Hébreux 13, verset 17, pourquoi nous faut-il coopérer avec les anciens? Pourquoi nous faut-il coopérer avec les anciens et soutenir leurs décisions, même si elles ne vont pas dans le sens de nos préférences? Parce qu'agir ainsi, c'est préserver l'unité du peuple de Dieu. Quand chacun se soumet humblement aux décisions prises par les collèges d'anciens, les assemblées prospèrent. Nous lisons en Hébreux 13, verset 17 « Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez soumis, car ils veillent constamment sur vous en hommes qui rendront compte, pour qu'ils le fassent avec joie et non en soupirant, car cela serait à votre désavantage. » Plus important encore, en coopérant avec les hommes sur lesquels Jéhovah compte pour prendre soin de nous, nous lui prouvons notre confiance. Paragraphe 11, question. Qu'est-ce qui peut renforcer notre confiance dans les instructions venant des anciens? Nous renforcerons notre confiance dans les instructions venant des anciens en nous souvenant que, lorsqu'ils examinent des questions relatives à l'Assemblée, ils prient pour recevoir de l'Esprit-Saint. De plus, ils réfléchissent attentivement aux principes bibliques concernés et consultent les instructions de l'organisation de Jéhovah. Ils ont très à cœur de plaire à Jéhovah et de s'occuper au mieux de son peuple. Ils savent qu'ils sont responsables devant Dieu de la manière dont ils s'acquittent de leur rôle. Réfléchis à ceci. Dans un monde gangréné par les divisions raciales, religieuses et politiques, les adorateurs de Jéhovah sont unis dans le culte du seul vrai Dieu. Si cette harmonie existe, c'est uniquement parce que Jéhovah bénit son organisation. Paragraphe 12, question. Sur quels critères les anciens se fondent-ils pour déterminer si un pécheur est repentant? Jéhovah a confié aux anciens la responsabilité de préserver la pureté de l'assemblée. quand un péché grave est commis, il attend d'eux qu'ils déterminent si le pécheur peut rester ou non dans l'assemblée. Les anciens doivent, entre autres choses, discerner si l'intéressé regrette vraiment son acte. Il se dit peut-être repentant, mais déteste-t-il vraiment ce qu'il a fait? Est-il résolu à ne pas recommencer? Si ce sont de mauvaises fréquentations qui l'ont entraîné à pécher, est-il prêt à couper tout lien avec ces gens? Les anciens prient, examinent les faits à la lumière des Écritures et tiennent compte du regard que le transgresseur porte sur ce qu'il a fait. Ensuite, ils décident s'il peut ou non rester dans l'assemblée. Dans certains cas, un pécheur devra être excommunié. Paragraphe 13, question. Si un de nos amis ou un membre de notre famille était excommunié, quelles interrogations pourrions-nous avoir? Qu'est-ce qui pourrait mettre à l'épreuve notre confiance dans les anciens? Quand une personne qui est excommuniée ne fait pas partie de notre famille ou de nos amis, nous acceptons peut-être facilement la décision des anciens. Mais supposons qu'il s'agisse d'un de nos proches. Là, nous pourrions nous demander si les anciens ont bien examiné tous les faits ou s'ils ont vraiment jugé l'affaire comme Jéhovah l'aurait jugé. Qu'est-ce qui peut nous aider à garder un bon point de vue sur cette décision? Paragraphe 14, question. Si les anciens décident d'excommunier un de nos proches, qu'est-ce qui peut nous aider à avoir une bonne réaction? Souvenons-nous que l'excommunication est une disposition de Jéhovah qui procure des bienfaits à l'assemblée et qui peut en procurer au pécheur lui-même. Si un pécheur non repentant était autorisé à rester dans l'assemblée, il pourrait y exercer une influence corruptrice. De plus, il risquerait de ne pas prendre conscience de la gravité de son péché, et donc de ne pas se sentir poussé à changer d'état d'esprit et de comportement pour retrouver l'approbation de Jéhovah. Nous pouvons être sûrs que lorsqu'il détermine si une personne doit être excommuniée, les anciens prennent leurs responsabilités au sérieux. Ils comprennent que, comme les juges de l'ancien Israël, ils ne jugent pas pour l'homme, mais pour Jéhovah. 2 Chroniques 19, versets 6 et 7. Faire confiance à Jéhovah maintenant est un entraînement pour l'avenir. Paragraphe 15, question. Pourquoi devons-nous aujourd'hui plus que jamais avoir confiance dans les directives de Jéhovah? Alors que la fin de ce monde approche, il nous faut plus que jamais avoir confiance dans les manières d'agir de Jéhovah. Pourquoi? Parce que, pendant la grande tribulation, nous recevrons peut-être des instructions qui nous paraîtront étranges, difficiles à appliquer ou illogiques. Or, Jéhovah ne s'adressera pas à nous directement. Il nous communiquera probablement ses directives par l'intermédiaire de ses représentants humains. Ce ne sera sûrement pas le moment de les remettre en question ou d'être sceptique en nous demandant « Ces directives viennent-elles vraiment de Jéhovah ? Ou les frères responsables de l'œuvre agissent-ils de leur propre chef ?» Comment te comporteras-tu durant cette période décisive de l'histoire ? La réponse réside peut-être dans la manière dont tu considères la direction théocratique aujourd'hui. Si tu as confiance dans les directives que nous recevons aujourd'hui et que tu y obéis volontiers, tu agiras probablement de la même manière pendant la grande tribulation. Voici ce que dit la légende de l'illustration associée au paragraphe 15. Qu'est-ce qui nous aidera à faire confiance et à obéir aux directives que nous recevrons pendant la grande tribulation? Paragraphe 16, question. Comment notre confiance dans les jugements de Jéhovah pourrait-elle être mise à l'épreuve dans un avenir proche? Il serait bien que chacun de nous réfléchisse à un autre aspect encore. Les jugements que Jéhovah prononcera à la fin de ce monde. Actuellement, nous espérons que beaucoup, dont des membres de notre famille, décideront de le servir avant la fin. Mais à Armageddon, c'est Jéhovah, par l'intermédiaire de Jésus, qui prendra la décision finale concernant leur avenir. Ce ne sera pas à nous de décider qui doit faire ou non l'objet de sa miséricorde. Serons-nous capables de faire confiance à ces jugements, ou ces jugements nous feront-ils trébucher? C'est certain, il faut fortifier notre confiance en Jéhovah maintenant, afin d'être en mesure de lui faire totalement confiance dans l'avenir. Paragraphe 17, question. Quels bienfaits retirerons-nous des jugements que Jéhovah prononcera à la fin de ce monde? Imagine ce que nous ressentirons dans le monde nouveau quand nous verrons ce que les jugements de Jéhovah auront produit. La fausse religion aura disparu, ainsi que le système commercial avide et le système politique qui a opprimé les gens et causé une indescriptible souffrance tout au long de l'histoire. Et puis, finis les problèmes de santé, la vieillesse et la mort de nos êtres chers. Pendant 1000 ans, Satan et les démons seront hors d'état de nuire. Les effets de leur rébellion seront annulés. Comme nous serons heureux d'avoir eu confiance dans les manières d'agir de Jéhovah. Paragraphe 18, question. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'attitude des Israélites rapportée en Nombre 11, versets 4 à 6 et 21, verset 5? Se pourrait-il que la vie dans le monde nouveau comporte des difficultés qui mettent à l'épreuve notre confiance dans les manières d'agir de Jéhovah? Pense à ce qui s'est passé peu après que les Israélites ont été libérés de l'esclavage en Égypte. Regrettant les denrées fraîches qu'ils consommaient là-bas, certains se sont plaints et ont regardé avec mépris la manne fournie par Jéhovah. Nous lisons en Nombre 11, versets 4 à 6. La foule mêlée qui se trouvait au milieu d'eux exprima alors un désir égoïste. Même les Israélites se remirent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Quel bon souvenir nous avons du poisson que nous mangions gratuitement en Égypte, sans parler des concombres, des pastèques, des poireaux, des oignons et de l'ail. Mais maintenant nous dépérissons, nous ne voyons rien d'autre que cette manne. » Nous lisons en Nombre 21, verset 5. Et le peuple parlait contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Il n'y a ni nourriture ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. » Se pourrait-il qu'après la grande tribulation, nous ayons le même genre de réaction que les Israélites? Nous ignorons la somme de travail qu'il faudra accomplir pour nettoyer la terre et la transformer progressivement en un paradis. Probablement que la tâche sera immense et qu'au début, la vie comportera certains désagréments. Oserons-nous nous plaindre de ce que Jéhovah nous fournira alors? Une chose est sûre, plus nous sommes reconnaissants aujourd'hui pour ce que Jéhovah nous fournit, plus nous avons de chances de l'être à cette époque future. Paragraphe 19, question. Comment résumerais-tu les idées principales de cet article? Les manières d'agir de Jéhovah sont toujours bonnes. Il nous faut absolument en être convaincus. Il nous faut aussi faire confiance aux hommes sur lesquels Jéhovah compte pour faire appliquer ses directives. N'oublie jamais ces paroles de Jéhovah transmises par le prophète Isaïe. Votre force sera de rester calme et d'avoir confiance. Isaïe 30, verset 15. Comment garder un bon point de vue si notre confiance dans les manières d'agir de Jéhovah est mise à l'épreuve? Quand nous lisons certains récits bibliques? Quand nous recevons des directives? Quand nous traverserons des difficultés dans l'avenir? Cantique 98. Toute écriture est inspirée de Dieu. Fin de l'article.